à Moïse, parle aux Israélites, qu'ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de cet endroit que vous camperez près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, « Ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. J'endurcirai le cœur du Pharaon. » Et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Tout se passa ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les dispositions de cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus ses services !» Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite ainsi que tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée, les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait plus de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous laissant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Et le Pharaon, ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne se rapprochèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer, et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée. Il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous !» L'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main sur la mer, et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse.
Merci Stéphanie. C'est bon, merci. Ah non. Alors, Sigmund Freud a dit, au fond, personne ne croit à sa propre mort. Et dans son inconscient, chacun est persuadé de son immortalité. Alors, je ne sais pas si ça soit vraiment le cas, mais ça me semble un peu plausible. En tout cas, l'idée du néant, du rien, du vide, nous est complètement étrangère. Alors, Guy de Maupassant, dans Bellamy, a dit ceci. « Toutes les religions sont stupides, avec la morale périle et la promesse égoïste, monstrueusement bête. La mort seule est certaine. » Sous-entendu, l'espérance d'une vie après la mort serait égoïste, voire bête. L'invention de gens peu réalistes qui n'osent pas regarder la dure réalité en face. Alors, Henri Bergson, le philosophe français du XXe siècle, a dit la chose suivante. La religion est une réaction défensive de la nature contre la représentation par l'intelligence de l'inévitabilité de la mort. Alors, ainsi avec lui, l'espérance de la vie après la mort est réduite à une réaction défensive de la nature. Alors, Jésus-Christ n'a pas philosophé de manière abstraite sur la vie et la mort. Il a tout ramené à sa propre personne. Et lui, il a dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. » Voilà des paroles fortes qui ont heurté les sensibilités de plus d'un, mais qui ont réconforté les cœurs de beaucoup. Alors j'aimerais y revenir ce matin, comme nous l'avons déjà fait dans la lecture, au récit de l'Exode, car ce passage a beaucoup à nous dire à ce sujet. C'est un passage qui parle de la vie et de la mort, et surtout de l'espérance de la résurrection. Alors ça fait plusieurs semaines que nous nous penchons sur ce livre de l'Exode, faisons une série dans ce livre, et on va terminer cette série ce matin avec ce passage qui parle de la traversée de la mer Rouge ou la mer des roseaux. Alors, ces dernières semaines, nous avons vu comment le peuple d'Israël, les Hébreux, souffrait énormément sous le joug des pharaons esclavagistes, racistes et génocidaires. Et la vie était très dure pour eux. Ensuite, Dieu a préservé de la mort, de manière particulière, un bébé en particulier, qui s'appelait Moïse. Il a grandi comme un prince et une fois adulte, il a essayé d'intervenir sans succès en faveur de son peuple assujetti. Il a dû prendre la fuite et s'exiler loin de ses ennemis en Égypte. Et c'est là, dans le désert, que Dieu, le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, s'est révélé à lui a parlé, l'a missionné à revenir et à faire sortir le peuple de sous la main lourde du pharaon. Alors bien sûr, ce pharaon ne voulait rien entendre d'un Dieu qu'il ne connaissait pas, et encore moins se séparer de sa main d'œuvre gratuite. Alors Dieu n'était pas dépourvu par la réponse du pharaon, mais au contraire, le texte nous dit que c'est Dieu lui-même qui a endurci son cœur, qui lui a livré à son choix de haïr Dieu et son peuple. Dieu l'a fait, nous dit le texte, pour montrer sa toute-puissance, pour montrer aux yeux de tous qu'il est le Dieu tout-puissant, devant qui tous doivent s'incliner. Il est le Dieu qui est le maître de la vie et de la mort. Dieu s'est montré tout-puissant, notamment par les 10 fléaux, on l'a vu ça il y a 2 semaines, donc les 10 plaies qui ont frappé le pays. Et la semaine dernière, nous nous sommes penchés sur le passage qui évoque la Pâque juive, le sacrifice d'un agneau, le moyen que Dieu a donné à son peuple pour échapper au 10e fléau, la mort de tous les fils aînés, ou tous les aînés, humains et animaux. Car, étonnamment, juifs et égyptiens, victimes et bourreaux, faisaient face au même sort, le jugement de Dieu, la mort. Alors ce matin, nous allons voir comment Dieu commence à conduire son peuple vers la terre promise. Alors, dans un premier temps, nous allons constater une formidable victoire, suivie dans un deuxième temps d'une victoire encore plus formidable. Et là, après, on va terminer avec l'invitation à prendre le début d'un long chemin. Une formidable, formidable victoire, une victoire encore plus formidable, et ensuite le début d'un long chemin. Donc on va commencer avec cette formidable victoire. Les Hébreux sont en chemin. La grande évasion a commencé. Le chapitre 12 parle de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc ils étaient nombreux. Et c'est Dieu lui-même qui leur sert de boussole. Dieu les guide dans les précédents. Le texte parle d'une colonne de nuée pendant le jour et dans une colonne de feu pendant la nuit. Donc Dieu est là. Il les accompagne. Alors voici une carte de l'Égypte et du Sinaï, avec la tracée de la route que les Israélites auraient peut-être prise. Je dis peut-être parce qu'on ne sait pas exactement, à la lumière des données bibliques, à la lumière de l'archéologie, on ne connaît pas exactement la tracée avec certitude, mais là n'est pas l'essentiel. En tout cas, serait-il plus facile d'aller directement en Israël en suivant la côte méditerranéenne au nord. Mais Dieu ne veut pas qu'ils arrivent trop tôt dans le pays. Il ne veut pas qu'ils se découragent avec les Philistins qui sont là. Et en plus, il a des choses à leur apprendre avant qu'ils n'y arrivent. Je pense que c'est bien de constater ça. Dieu préfère parfois prendre son temps. Il ne se bouscule pas. Il ne se précipite pas. Parce qu'il désire nous apprendre des choses sur lui, souvent, sur nous-mêmes et sur la vie. Dieu aime les détours. Alors, au premier verset du chapitre 14, nous lisons ceci. « L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites qui reviennent camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de cet endroit que vous camperez, près de la mer. » Alors, Dieu demande à Moïse de rebrousser chemin et de faire une manœuvre militaire un peu étonnante. Alors au musée aux Invalides, il y a une section que moi j'aime bien, qui contient des plans en relief des champs de bataille de Napoléon, et aussi des installations militaires de Vauban. Alors, par exemple, voici le champ de bataille d'Austerlitz en République tchèque, scène d'une grande victoire napoléonienne. Alors pour gagner une bataille, c'est important de connaître le relief du champ de bataille et de bien se positionner pour mettre toutes les chances de victoire de son côté. Mais le problème pour les Israélites, c'est que Dieu les a guidés exprès vers un lopin de terre qui, à vue humaine, semble stratégiquement périlleux. Ils ont leur dos à la mer, donc aucune sortie possible. Il y a sans doute des collines en face. Ils semblent très mal en point pour affronter la puissance de l'armée égyptienne. Mais Dieu n'est pas un mauvais stratège, c'est un guet-apens. Verset 3 du chapitre 14 nous révèle la pensée du Seigneur. Le Pharaon dira des Israélites, « Ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. » Dieu dit, « J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. » Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Dieu veut que sa victoire soit magistrale, qu'elle montre aux Égyptiens d'abord, mais ensuite au monde entier, que c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant, un Dieu à craindre. Les Égyptiens ne sont pas n'importe qui. L'Égypte est la superpuissance de l'époque. Verset 7 parle de 600 chars d'élite, ainsi que tous les autres chars. À l'époque de la guerre froide, les Soviets et leurs alliés avaient beaucoup plus de chars que les forces de l'OTAN. Et l'OTAN a dû adopter une posture plutôt défensive. L'Égypte est sans l'ombre d'une hésitation la seule superpuissance de son époque. Elle fait peur. Et ses chars et ses cavaliers sont redoutables. dans notre texte, le martèle à plusieurs reprises. Chariot, cavalier, chariot, cavalier. Et en lisant le texte, on peut presque les entendre venir. Chariot, cavalier, chariot, cavalier. Et les Israélites sont coincés entre la mer et les collines, dans l'impasse. 600 000 réfugiés et leurs familles, qui n'ont jamais fait de service militaire, qui n'ont jamais connu la guerre, doivent faire face à une armée disciplinée, aguerrie, formée et surtout très très bien équipée. Alors, je ne sais pas comment vous réagirez à cette situation-là. C'est vrai que parfois les circonstances de la vie semblent nous acculer au bord du gouffre de cette manière-là. Lisons le verset 11. Les Israélites dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Ils ont peur de la mort. C'est pour ça que la mémoire défaille. La mort est un adversaire encore plus redoutable que l'esclavage. La mort est encore moins supportable, moins vivable que le joug du pharaon. Et c'est vrai que la mort est l'ennemi qui nous guette tous, l'adversaire qui fait partie intégrante de la condition humaine, l'opposant qui veut mettre fin à nos jours. Dans la vie, comme Maupassant a dit, seule la mort est certaine. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que Dieu est maître de la vie et de la mort. Alors Moïse étend son bâton, conformément à ce que Dieu lui a demandé de faire, et Dieu fait refouler l'eau par le moyen d'un vent d'est. Ce vent d'est qui a soufflé avec une telle violence qu'il a asséché la mer. Et cela a permis aux Israélites de traverser, de marcher au milieu de la mer à pied sec. C'est un événement un peu inexplicable, c'est un miracle. Certains voient que Dieu utilise un moyen naturel, le vent, mais en même temps, c'est vrai, c'est du jamais vu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelque chose de la sorte. Je ne pense pas que quelque chose comme ça s'est jamais reproduit. Mais que le Dieu créateur puisse faire cela n'est pas incroyable en soi. S'il a pu créer l'univers, refouler un peu d'eau ne peut être au-delà de ses forces. Certains essaient d'expliquer l'événement en disant qu'ils ont traversé une petite mare profonde de quelques centimètres. Mais la suite du passage nous montre que lorsque l'eau revient, elle recouvre tous les chars et pas un seul Égyptien ne survive. En effet, c'est ainsi que Dieu remporte la victoire et écrase la fierté du pharaon. Avant de mourir, les cavaliers égyptiens crient « Prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. » C'est le récit d'une formidable victoire, une victoire étonnante, une victoire écrasante, une victoire miraculeuse. Les 600 chars d'élite se retrouvent écrasés sous le poids meurtrier de la mer qui se referme sur eux. Et Dieu sauve son peuple en remportant une victoire immense sur ses ennemis. On sait que les forces militaires égyptiennes, pendant 600 ans de se reconsolider avant de devenir une puissance régionale de nouveau. Agincourt, Austerlitz, le jour J, bataille de Berlin ne sent rien à côté de cette victoire qui a tant impressionné les peuples du Moyen-Orient et qui a vraiment inspiré la foi des Hébreux. Mais en quoi cette histoire, cette victoire, nous concerne-t-elle ? Alors cette victoire peut sembler modeste à côté d'une autre. Nous sommes à notre deuxième section, une victoire encore plus formidable. Alors tout au long de cette série, dans le livre de l'Exode, nous avons vu l'importance de ce récit historique, que son importance dépasse les seuls événements évoqués, parce que cette histoire sert de modèle, de trame pour toute l'histoire de la Bible. Et cette histoire d'une victoire sur la mort par le passage de la mer des roseaux trouve son écho le plus fort dans l'histoire de Jésus-Christ lui-même. Le ministère de Jésus est compris par les prophètes de l'Ancien Testament, par Jésus lui-même et aussi par les auteurs du Nouveau Testament comme un deuxième exode. Ce premier exode n'est simplement une ombre, un modèle en miniature, un exemple de la réalité, de la vraie libération, de la vraie émancipation qui va avoir lieu et qui a déjà eu lieu en Jésus-Christ. Et le passage à travers les eaux de la mer des roseaux nous renvoie en particulier à la croix et à la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est là où il a vaincu ses ennemis, et c'est là où il a sauvé son peuple. À la croix, Jésus est encerclé de ses ennemis. Il est trahi par ses proches, acculé à la mort. Le Créateur est jugé et condamné par ses créatures. Ses paroles sont méprisées, il est la risée d'inconnus. Il ne semble pas y avoir de sortie. C'est vendredi et tout semble noir. C'est vendredi et tout semble perdu. Comme d'habitude, la mort semble avoir le dernier mot. C'est vendredi et avec Maupassant, seule la mort est certaine. Les réactions défensives dont parle Bergson s'écroulent. La dure réalité prend le dessus. Mais c'est sans compter sur dimanche matin. Le tombeau, pourtant bien protégé, est vide. Jésus a traversé la mort. Il en est sorti victorieux. Le passage de la mort à la vie, comme le passage de la mer des roseaux, de la mort à la vie, n'a pas de secret pour lui. Le tombeau vide et le témoignage des disciples est la grande énigme de l'histoire humaine, difficilement explicable, sans accepter que le Dieu Tout-Puissant ait intervenu. C'est l'événement géocosmique le plus spectaculaire qui soit. Car, tout comme dans le récit de l'Exode, Dieu veut faire éclater sa gloire. Il veut montrer à tous qu'il est le plus puissant, qu'il est le chef de la vie et de la mort, qu'il est le juge à craindre. Est-ce une réaction de défense religieuse face à l'inévitabilité de la mort? Une belle histoire qui a été racontée, inventée pour nous faire oublier l'horreur du vendredi. Pour les Grecs qui méprisaient la matière, une résurrection physique n'était même pas souhaitable. Pour les Juifs, dont certains croyaient quand même à la résurrection des morts, la résurrection d'un seul mort, au milieu de l'histoire, avant la fin de la maladie, la mort, l'injustice, c'était une aberration, un non-sens. Décidément, les gens religieux de l'époque étaient plutôt gênés par ce message d'une résurrection. Cela ne leur convenait pas. Pourtant, dès le début, les chrétiens l'ont annoncé haut et fort. L'apôtre Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens qu'il avait écrite à peine 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Il a écrit « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Cephas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres et finalement à Paul lui-même. Cet événement n'a pas été attesté et validé en vase clos derrière de portes closes, mais par de multiples témoins. Paul enchaîne en disant à ses contradicteurs, à ces gens qui croient que la foi est une réaction défensive ou obscurantiste. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Allez, il est lucide. Vous êtes encore dans vos péchés. et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Et c'est ça ce qui lui permet de dire à la fin de ce chapitre, comme François a lu tout à l'heure, « La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire ?» Ce qui nous amène à notre troisième point, notre dernière section, le début d'un long chemin. Les Israélites viennent de quitter Sukkot. Ils suivent le détour que Dieu leur propose. Ils sont en chemin. C'est le début d'une libération. Et face à la puissance de l'armée égyptienne et ce qui semble être l'inévitabilité de la mort, les Israélites s'angoissent. La peur est tangible. Mais au verset 13, nous découvrons la réponse calme et flegmatique de Moïse. Donc, jetez un coup d'œil sur le verset 13. « N'ayez pas peur. Restez en place. » Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Dieu ne leur demande pas de participer à leur salut. C'est lui qui va remporter la victoire. Ce n'est pas Dieu avec un peu d'aide des hommes qui remportent cette victoire, mais Dieu seul. Pourquoi? Parce que comme Dieu le dit encore et encore dans ce passage, il veut faire éclater sa gloire. Il veut que tout le monde le reconnaisse comme le seul Seigneur et le seul Sauveur. Et de toute façon, les Israélites ne pouvaient rien faire. Il veut que les Israélites mettent leur confiance en lui seul. Et pour mettre la confiance en lui seul, il faut qu'il cesse de s'agiter. Il faut qu'il garde le silence, ne rien dire, ne rien faire. Ils doivent accepter qu'ils ne peuvent pas se sauver, qu'ils sont acculés à la mort, qu'ils sont prisonniers de la mort. Le salut s'obtient par la foi seule, la confiance en Dieu seul. Et les versets 30 et 31 à la fin du passage le résument bien. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Pour nous, la victoire ultime sur la mort est en Jésus-Christ. Cela veut dire que nous devons regarder à Jésus, à sa victoire sur la croix. Cela veut dire que nous devons dépendre de lui seul pour échapper à la mort. Comment? En cessant de s'agiter, en cessant d'essayer de gagner l'approbation de Dieu ou le pardon de Dieu par nos actes religieux, et en se fiant au sacrifice de Jésus seul, notre Pâque, notre agneau pascal qui ôte les péchés du monde. La vie chrétienne n'est pas d'abord une liste de doctrines à adopter, mais il s'agit d'un chemin, d'un voyage. Les Israélites doivent cesser de s'agiter et se mettre en chemin en faisant confiance à Dieu, au Dieu qui sauve. Le passage par la mer des roseaux était le début du voyage, un voyage qui allait les amener vers la terre promise. Et le chrétien se met en chemin en se fiant à Jésus-Christ, en mettant sa confiance en lui qui est mort pour prendre la peine que nos fautes méritaient et qui est ressuscité pour que nous puissions être pardonnés et acquittés. La vie chrétienne n'est pas un voyage solitaire, c'est d'abord avec Jésus, c'est une relation personnelle avec lui. Mais c'est aussi un voyage avec son peuple, jusqu'à notre arrivée dans la nouvelle création, dans la présence permanente de Dieu. Tout comme le peuple d'Israël a cheminé ensemble jusqu'à l'arrivée dans la terre promise. Puis-je vous poser la question, avez-vous commencé ce chemin? Avez-vous déjà mis votre confiance en Jésus? Avez-vous déjà demandé et accepté le pardon que son sacrifice, cette Pâque, rend possible? Nous sommes tous acculés à la mort, mais Jésus nous dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque sa foi en moi ne mourra jamais. Alors si vous aimeriez en savoir un peu plus, je vous encourage à prendre un de ces petits livrets qui sont à l'entrée, qui sont intitulés « Deux façons de vivre ». C'est un livret qui explique un peu plus l'espérance chrétienne. Et sachez aussi que dans quelques semaines, on va commencer une série de 5 soirées sur le béaba de la foi, donc les fondements de la vie chrétienne. C'est 5 soirées avec le titre « Horizon Dieu ». C'est le mercredi, ça commence au mois de mai. Donc prenez aussi une invitation si vous aimeriez bien enquêter un peu plus sur ce que cela veut dire de vous mettre en chemin avec Jésus. Dans la foi chrétienne, le signe extérieur de cette foi intérieure, parfois cachée et personnelle, est le baptême. Les Israélites ont mis leur confiance en Dieu et ils sont passés par les eaux de la mer des roseaux. L'apôtre Paul parle en fait de la baptême, en fait, il parle du baptême du peuple d'Israël en Moïse, par le passage par la mer Rouge. Jésus, lui, parlait de sa mort et de sa résurrection comme son baptême. Et c'est par le baptême, ce passage par l'eau, qui symbolise notre solidarité avec Jésus dans sa mort et aussi dans sa résurrection, que le chrétien témoigne publiquement de sa foi en Jésus, celui qui est la résurrection et la vie. C'est le premier pas concret de la vie chrétienne. Le baptême n'est pas un acte qui effectue, qui opère ou qui donne le salut. C'est simplement le signe de la foi en celui qui sauve, le signe par lequel le croyant témoigne à tous qu'il appartient dorénavant à celui qui a pris ses péchés et qui lui a donné la vie éternelle en Jésus. Peut-être que cela fait un moment que vous cheminez avec Jésus, vous vous êtes déjà mis en chemin, mais vous n'avez pas encore témoigné publiquement de votre foi. Puis-je vous inviter à considérer le baptême et à joindre de manière publique et visible tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Mais pour nous tous ce matin, j'aimerais que le message de la résurrection et de notre Seigneur et de notre Sauveur nous remplisse de joie et de confiance. Il a conquis la mort. Il a vaincu notre adversaire. Et grâce à lui, grâce au pardon que nous avons en lui, nous pouvons vivre aujourd'hui et dans l'éternité en nouveauté de vie. Nous sommes en chemin, la terre promise est encore future, c'est vrai, mais nous avons déjà les prémices de cette nouvelle vie en nous, notre vie en Jésus, dans l'Esprit. Vivons comme le peuple d'Israël qui, après être passé de la mort à la vie, a craint Dieu et mis la confiance en lui et en son serviteur. Alors, pour nous, ce serviteur, c'est bien sûr Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Prions. Thank you.